Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, la rencontre hier à Kisangani entre le ministre de la Justice et des victimes de conflits armés, Guillaume Guéffa, a confirmé à cette occasion la reprise imminente du processus d'indemnisation, mais avec un audit rigoureux du fichier des bénéficiaires. Dans ce journal aussi, le début et depuis hier de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau à Kindu, près de 500 participants en font un diagnostic du maniement en vue de booster son développement. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, patron de la MONUSCO, James Swan, est arrivé mardi à Kinshasa. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont échangé sur les attentes de la classe politique et de toutes les forces vives de la nation de la part du nouveau chef de la mission. Vous suivrez dans cette édition. Bienvenue. Avant de développer ces titres, sachez d'abord que lors de l'ouverture de la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics, CNITP, hier mercredi au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa, le chef de l'État a orienté son discours autour de l'ambition de faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de l'économie et de l'intégration effective de la RDC. Placé sous le thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC, ces assises s'inscrivent dans le contexte de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de la République démocratique du Congo. Elle rejoint également les dynamiques africaines actuelles qui font des corridors de l'intégration en logistique, des chaînes de valeur régionales et de la résilience climatique des priorités de premier ordre. Venons-en à présent à ce face-à-face ministre de la Justice et victime des conflits armés. C'était hier mercredi à Kisangani. À cette occasion, Maître Guillaume Nguefa dit oui à l'indemnisation des victimes, mais sous haute surveillance. Au cœur de ces échanges, vous avez compris, l'épineuse question de l'indemnisation des victimes attendue depuis plusieurs années par une population meurtrie. Le point avec Jacques Mokongole.
Si le ministre a confirmé la reprise imminente du processus d'indemnisation, il a toutefois tenu à poser un préalable non négligeable, l'audit rigoureux du fichier des bénéficiaires.
Dans l'état actuel, où il y a des vraies, des fausses victimes, des victimes fictives.
L'objectif de cette démarche est clair, assainir la base des données pour garantir que les fonds bénéficient réellement à ceux qui ont souffert des affres de la guerre. Une démarche soutenue par de nombreuses victimes, à l'instar d'Atex Atembone, l'une d'elles.
Tout le monde le sait, même dans la salle, et là, ceux-là qui se disent victimes, mais nombreuses ne le sont pas. Donc cet audit, c'est mieux, ça va permettre vraiment à identifier qui sont les victimes qui ne le sont pas. Si vous voyez les gens résister, ce sont des fausses victimes.
D'autres ont tenu mordicus à la relance de l'indemnisation hic et nunc, estimant que ces fonds leur appartiennent. Ces allégations sont balayées du revers de la main par le ministre.
C'est l'argent de l'État. Et l'État comprend la population. Et dans sa population, il y a une certaine catégorie qui a été victime. Et c'est ce que nous avons aussi clarifié. Et en tant qu'État, nous avons l'obligation de protéger sa population, y compris les victimes.
Des recommandations formulées, l'une propose la prise en compte des héros dans l'ombre qui ont porté la voix des victimes au niveau international. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction l'Ituri avec cet appel au calme du chef du secteur de Walendu Djati vis-à-vis des jeunes. Les récentes attaques attribuées à la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga dans les territoires de Djougou continuent d'inquiéter les autorités coutumières locales, raison pour laquelle Justin Goudza s'est exprimé lors d'un point de presse hier mercredi à Bounia. Il recommande aux jeunes de s'abstenir de toute forme de violence et d'éviter toute manipulation susceptible de raviver les tensions. Jean-Claude Lokidile nous propose un extrait de ses propos.
Dernièrement, il y avait une très grande activité qui a réuni à la festivité ici des Pâques, cette période-là. Les gens fréquentaient de partout, toutes les communautés, des Jina, des Bassa, des Likopi. Tout le monde a passé une période, un moment, dans le calme, jusqu'à finir les activités et puis rebrousser les chemins. Quand il y a des incidents, ça remet le tout à cause de cette entrée de la CRP. Ça gêne tout le monde parce que ça perturbe. Voilà des avancées significatives, voilà la reprise des cohésions sociales. À la communauté. Vous arrivez à Fatak, si vous trouverez toutes les tribus confondues à Fatak. Voilà, c'est ça. Même des poulets, j'ai vu à Fatak. Donc, ça témoigne sur lequel, non, en tout cas, les gens ont besoin de vivre ensemble. Et les gens vivent déjà automatiquement. Donc, il ne reste que vraiment de lutter contre voilà, ces gouttes-là de criminels que nous appelons à revenir à conscience. Et voilà, suivre la ligne de conduite qui trace le gouvernement national, le gouvernement provincial. Et ça nécessite vraiment l'implication de tous.
La stratégie nationale du programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation a été dévoilée hier mercredi ici à Kinshasa. Elle a été présentée par son coordonnateur national Jean des Dieux Désiré Ntanga, 4 ans après sa mise en œuvre. Parmi ces 5 axes stratégiques figurent la résolution du conflit, la cohésion nationale ainsi que la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Les experts du PDDRCS ont exposé ces 5 axes qui sont séquencés autour de 16 segments, segments qui constituent les activités clés du programme et les réalisations faites pendant ces 4 ans, dont il s'agit notamment de 5605 ex-combattants démobilisés, plus de 1200 armes, 5000 munitions et 50 explosifs récupérés. On écoute Jean des Dieux Désiré Ntanga, coordonnateur national du PDDRCS, au micro de Richard Junior Kamonga.
Depuis l'adoption de cet instrument important qui est d'ailleurs repris dans l'ordonnance 2138, 4 ans aujourd'hui, nous sommes là pour, en même temps, contribuer à sa vulgarisation, mais c'est aussi voir comment est-ce que nous avons marché avec cette stratégie pendant 4 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous avons rencontré comme défi, comme difficulté? Comment on les a contournés? Comment on les a relevés? Et quels résultats nous avons obtenus? Ça, c'est très important pour le comprendre. Mais le dernier volet de cette rencontre, c'est aussi parler des perspectives. Qu'est-ce que nous rêvons? Que projetons-nous pour les 6 prochains mois? Les 12 mois qui viennent, les 2-3 prochaines années, où est-ce que nous pensons être avec cette stratégie nationale? Comme je le disais, les missions principales qui nous sont dévolues comme coordination nationale, c'est, au-delà de l'élaboration de la stratégie nationale, c'est son implémentation, mais c'est aussi évaluer, voir où est-ce que nous en sommes et régulièrement.
Nos excuses pour la qualité de ce son. Je vous signale que le programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation opère dans 6 provinces. Il s'agit du Nord et du Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema, le Tanganyika et Kinshasa. Kindu, capitale de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau depuis hier matin. Près de 500 participants nationaux comme étrangers venus de plusieurs pays du monde sont en train de faire un diagnostic de la province en vue de booster le développement du Maniema. Ils vont notamment identifier des opportunités concrètes d'investissement et poser les bases du partenariat durable dans une logique de développement inclusif et respectueux de l'environnement. Au final, ces assises de 3 jours vont permettre aux experts de formuler et d'adopter des recommandations prioritaires visant à redynamiser les secteurs de l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. C'est un reportage signé Florence Kizalunga.
Dans une salle bondée de participants venus de plusieurs coins et décorée aux couleurs des thèmes de ses travaux, le gouverneur du Maniema, Moussa Kabankoubi, a ouvert le bal en décrivant les potentialités qui regorgent la province du Maniema en tenant compte des difficultés auxquelles elle est confrontée.
L'objectif poursuivi, c'est d'établir un diagnostic sans complaisance. Et c'est à partir de ce diagnostic que nous allons dégager les problèmes majeurs dans les différents secteurs. Mais déjà, la province du Maniema a beaucoup de potentialités. Il est question seulement de les valoriser, de les capitaliser et ça va aboutir à la création de beaucoup d'emplois, à la lutte contre la pauvreté et surtout à la diversification de notre économie. Donc le Maniema a un rôle à jouer dans la stabilité du climat de notre pays.
La ministre de l'Environnement, Marie Nyange, attend que cette conférence soit réellement un espace de dialogue constructif et de formulation des actions concrètes.
Il y a de très belles perspectives au Maniema et les discussions vont être d'un très haut niveau pour faire un diagnostic sérieux qui débouchera sur des actions à prendre de manière à faire décoller cette province.
Cette conférence se poursuit ce jeudi avec des panels sur l'agriculture. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi cette colère des jeunes au Nord Kivu, une 60aine au total. Ils sont descendus dans les rues des Bénières pour exprimer leur ras-le-bol, leur opposition à l'exploitation du pétrole à Mwanda au Congo central par la compagnie Perenco, puisque selon eux, ce genre de projet est en cours d'être implanté chez eux avec le pétrole présent au lac Albert-Édouard. Pour ces manifestants, plus de 50 années d'exploitation pétrolière n'ont apporté aucun bénéfice réel aux populations locales qui continuent de vivre dans la misère à Mwanda. Et ce n'est pas tout, il dénonce également la dégradation de l'environnement et la destruction de l'écosystème dans cette région du Congo central. Face à cette situation, ces jeunes exigent du gouvernement congolais déjà la suspension du contrat liant l'État à l'entreprise Perenco, qui juge non profitable au peuple congolais. L'un d'eux, Nick Junior, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Pendant plus de 50 ans, on ne peut pas exploiter du pétrole, on ne peut pas exploiter les ressources naturelles sans aucune action du développement dans un milieu. C'est comme ça que nous sommes en train de nous dire qu'il est temps que le gouvernement congolais puisse mettre fin à ce contrat de Perengo dans le Moanda qui n'a pas aidé la population. La population est en train de courir dans la misère. La Perengo est en train de détruire l'environnement, l'écosystème dans le Congo central, sans pourtant avoir aucune action de compensation à la population locale. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes un pays solution à l'écosystème au niveau mondial. Si nous pouvons prendre ça, ça peut nous régénérer beaucoup d'argent. Donc il est maintenant ce temps que le gouvernement puisse mettre fin à des marchés pour des sociétés qui vont venir détruire notre environnement, à qui nous puissions demain ou après-demain entrer non seulement dans la crise sécuritaire, mais aussi dans la crise climatique qui tue plus que même la crise des conflits de violence militaire.
Du pétrole, parlons des routes à présent. Dans la capitale, des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa, commune de Limété, se poursuivent normalement. Pour cette première phase, les interventions portent essentiellement sur la construction des caniveaux de part et d'autre de la chaussée à la satisfaction des populations de ce coin de la capitale. L'état d'avancement de ces travaux avec Christophe Ngandou.
Lancé en octobre 2025 par le ministère des Travaux publics, Infrastructures et Reconstruction dans le cadre du projet Tchilegelou, initié par le chef de l'État, les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Kulumba évoluent conformément au calendrier établi. Longue de 2276 mètres, l'avenue Kulumba est réhabilitée sur le tronçon reliant Usam au point chaud sous l'exécution de l'entreprise chinoise Crexet, précise Francis Kadima, ingénieur au sein de la dite entreprise. Depuis le lancement des travaux, nous n'avons enregistré aucune interruption. Nous avançons normalement. Actuellement, nous sommes à la phase de construction des caniveaux, disant jusqu'au point chaud. Après cette étape, nous passerons au bétonnage, notamment du côté du Veco à partir des Gécoco. Ceux qui en doutent peuvent venir constater sur place. Leur côté, les usagers de cette avenue saluent l'évolution des travaux et espèrent qu'ils seront achevés dans le délai prévu. Notre souhait est de voir ces travaux se terminer dans les délais. Nous demandons aux autorités d'assurer un suivi rigoureux. Nous sommes très satisfaits de voir que les travaux avancent normalement. À noter que les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Kulumba à Kingabwa s'étendent sur une durée totale de 28 mois.
Un naufrage sur le lac Kivu, territoire de Calais, dans le sud Kivu. Bilan, un mort et plusieurs disparus. L'accident s'est produit mardi dernier dans la soirée. Comme d'habitude, pas de manifeste, donc le nombre des passagers à bord de cette embarcation motorisée n'est pas connu. Mais les sources de la société civile de Calais font état de 7 rescapés. Le président du bureau de la nouvelle société civile de Calais, Benjamin Mungazi, déplore en même temps le surchargement qui, selon lui, serait à la base de ce naufrage car le bateau n'a pas résisté à une forte vague. On l'écoute.
Un bot motorisé qui quittait l'île le 10 juillet, plus précisément dans le marché de Sakiro, vers 16h, et qui s'est dirigé à Makenge, dans le coupement de Mbinga Nord, a chaviré. Les passagers ont manqué les secours sur le lac Kivu jusqu'à 18h en train de nager, mais sans succès. Les sources locales signalent qu'une forte vague est venue sur le lac et le bot a chaviré suite à ce chargement. Au bord de cet enjeu, il y avait les passagers de Makengere, Mweha, Nyamshonga et Nyabibwe d'Akabulu Penye. Un corps sans vie d'un enfant de 6 ans retrouvé. Et plus de 7 personnes en vie, malgré que le nombre de passagers qui y étaient n'est pas encore connu à présent. La nouvelle société civile alerte et demande au gouvernement national, aux autorités compétentes, aux personnes de bonne volonté, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, tous de s'impliquer, venir en aide de la population et surtout celles dont leurs membres de la famille sont noyés dans le lac Kivu, en mettant aussi l'accent sur les propriétaires de bottes d'être prudents et vigilants lors des chargements des biens et les passagers.
Nous abordons à présent notre série de reportages consacrés à la crise de registre d'enregistrement des enfants, notamment des actes de naissance à Beni dans le Nord Kivu. Vous savez, l'absence d'actes de naissance expose depuis 4 ans des milliers d'enfants à un risque encore plus grave, celui de devenir apatride. Il est très important de comprendre ce que signifie ce terme. Élément d'explication dans ce reportage de Martial Papi Moukeba.
L'apatridie désigne la situation d'une personne qui n'est reconnue comme citoyenne par aucun État. Autrement dit, une personne apatride n'a pas de nationalité. Dans la plupart des cas, cela commence dès l'enfance, notamment lorsque l'enfant n'est pas déclaré à la naissance dans les délais de la loi, soit 90 jours, et ne possède aucun document officiel. Sans acte de naissance, il devient difficile de prouver son identité, sa filiation ou encore son origine. Avec le temps, l'enfant peut se retrouver exclu de nombreux droits, accès à l'éducation, aux soins de santé, à la justice ou encore à la participation citoyenne. Dans certains cas, cette absence d'identité légale peut suivre la personne toute sa vie, compliquant même l'obtention d'un emploi ou d'un document officiel à l'âge adulte. Ainsi, dans des contextes comme celui de Béni, où les registres d'état civil font défaut depuis plusieurs années, les risques d'apatridie deviennent une réalité préoccupante pour toute une génération. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La police éthiopienne a annoncé l'arrestation d'un dangereux trafiquant d'êtres humains international et de 9 complices accusés d'avoir fait passer clandestinement plus de 3000 migrants vers la Libye. Selon les autorités, ce réseau sous enquête depuis 2018 a recruté des jeunes originaires d'Éthiopie, mais aussi du Soudan, d'Érythrée, de Djibouti, du Kenya et de Somalie, tous espérés rejoindre l'Europe en transitant par la Libye.
L'invité.
Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et patron de la MONUSCO, James Swan, est arrivé mardi à Kinshasa. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont échangé sur les attentes de la classe politique et de toutes les forces vives de la nation de la part du nouveau chef de la mission. On les écoute au micro de Guimaté.
Karline Zanzou-Kassivita, vous êtes députée nationale élue des Beni Territoire, vous êtes vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, vous êtes également gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, a affirmé placer sa priorité sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO qui consiste notamment à la protection des civils, à l'appui à la désescalade et à la création des conditions propices à une paix durable. Prenons d'abord la protection des civils, hein, ce volet du mandat de la MONUSCO qui a toujours été apprécié diversement. Qu'attendez-vous de la part de James Swan par rapport à l'accomplissement du mandat de la MONUSCO dans son volet protection des civils?
Il faut avouer que effectivement, ce concept crée plus de confusion dans la compréhension des victimes. Mais je suis tout à fait d'accord que la MONUSCO joue un rôle important, surtout pour sécuriser les humanitaires, pour faciliter les actions humanitaires dans plusieurs régions de notre pays. Je suis aussi d'avis que dans certaines conditions, la population congolaise peut trouver refuge, peut être protégée par les casques bleus de la MONUSCO. Mais il faut avouer que les escalades, que ce soit en Ituri, que ce soit en Nord Kivu, que ce soit dans d'autres provinces telles que le Sud Kivu, ces escalades sont quand même assez trop récurrentes, au point que le mandat naturellement de la MONUSCO ne permet pas à la MONUSCO de pouvoir interagir comme nous le souhaiterions, nous, victimes de cette guerre. C'est pourquoi nous souhaiterions effectivement que des structures assez robustes comme l'AFIB puissent être renforcées pour nous permettre non seulement d'accompagner les FARDC dans la traque des ANDEF, mais aussi être en mesure de surveiller et d'imposer un cessez-le-feu. Parce qu'il ne va pas être facile de jouer aux désescalades si la MONUSCO n'est pas à mesure d'imposer ne serait-ce que le respect du cessez-le-feu.
Merci. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national honoraire. Vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement SID en sigle, et parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. C'est quoi les attentes de la classe politique en général en RDC et de l'opposition en particulier par rapport au mandat du nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC?
Nos attentes sont fortes, mais en même temps assez modérées. D'abord, nous attendons du nouveau chef de la MONUSCO une démarcation dans la question de la protection des civils par rapport à ses prédécesseurs. Parce que dans notre pays, la protection des populations civiles va très mal dans toutes les zones. Dans les zones sous contrôle du gouvernement, à Kinshasa même, vous avez ici des personnes qui sont détenues dans des cachots,
non accessible même par le procureur. Et si la NET décide déjà à Kinshasa, qu'en est-il dans des provinces? Et donc, de ce côté-là, le nouveau chef de la MONUSCO doit être regardant. Va-t-il chercher à s'accommoder, entretenir de bonnes relations avec le pouvoir et garder le silence pendant que les gens sont détenus dans des cachots secrets pendant si longtemps? Ou va-t-il hausser le ton? Nous pensons qu'il en a les atouts, il a l'expérience suffisante et il peut disposer du soutien de beaucoup de partenaires au Conseil de sécurité.
Merci Frédéric Kamani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Vous ne pensez pas que cette problématique relative à la protection civile devrait être perçue de la même manière par toutes les parties prenantes afin qu'elle ne suscite plus de polémiques pour, comme vous l'avez souhaité, qu'il y ait cohérence entre les missions et les actes posés sur le terrain?
C'est vrai, je crois que chaque parti, et lorsque je parle de parti ici, il y a la partie gouvernementale, il y a la partie opposition, il y a la partie civile, mais aussi il y a la partie, passez-moi l'expression, la partie rébellion. Alors, chaque parti a sa conception de la protection des civils, mais moi je pense que la conception unanime ici, c'est de faire en sorte que le droit de l'homme soit respecté et par l'opposition et par les gouvernements, et par la rébellion. Et cela va permettre à ce qu'il n'y ait pas un double standard lorsqu'il s'agit de la protection des civils, que ce soit pour le gouvernement ou pour l'opposition.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Liedwin Bwinga, la mise en onde est signée André Bongo. Excellente journée.